Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Hélène Destombes.
Bonsoir. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Cette citation tirée de l'évangile selon saint Marc est le thème du message du pape François pour la 5e journée mondiale des pauvres. Elle se tiendra le dimanche 14 novembre. Ce texte d'une grande densité a été rendu public ce matin dans le contexte dramatique de l'explosion de la pauvreté due à la pandémie de Covid-19. Le compte-rendu de Cyprien Viette.
Le pape explique dans ce message que Jésus est non seulement du côté des pauvres, mais partage avec eux le même sort. Les chrétiens ont donc un devoir de solidarité concrète et non pas seulement d'aumône ponctuelle qui parfois humilie la personne pauvre plus qu'elle ne l'aide. Les pauvres sont un sacrement du Christ, ils représentent sa personne et nous renvoient à lui, avertit le pape. François rappelle qu'avec la pandémie, le nombre de pauvres a augmenté de manière démesurée et malheureusement cela sera encore le cas dans les mois à venir. Les longues files d'attente devant les cantines pour les pauvres sont le signe tangible de cette aggravation, remarque le pape avec tristesse. Il salue néanmoins tous ceux qui se retroussent les manches pour venir en aide aux personnes en difficulté dans cette période de crise. L'enjeu sur le long terme est de trouver les formes les plus appropriées pour relever et promouvoir cette partie de l'humanité trop souvent anonyme et sans voix, mais qui a imprimé en elle le visage du sauveur qui demande de l'aide. Toute la tradition biblique et patristique insiste sur l'attention due aux pauvres, comme l'indique par exemple cette citation de saint Jean Chrysostome reprise par le pape François. « Toi aussi, quand tu vois un homme sur la terre qui a fait le naufrage de la misère, ne juge pas, ne lui demande pas compte de sa conduite, mais libère-le du malheur. »
Cyprien Viette. Le pape François a par ailleurs adressé un message à l'occasion de la 42e session de la conférence de la FAO qui se tient à Rome cette semaine, rappelant que les trois quarts de ceux qui ont peu à manger sont des personnes qui produisent des aliments pour le reste du monde. Le Saint-Père invite ainsi à redessiner une économie à l'échelle humaine et au regard de la pandémie à inverser le cours suivi jusqu'à présent, en aidant les personnes les plus vulnérables aux crises et aux conditions météorologiques extrêmes. Plus de précisions à l'adresse vaticannews.va. Les membres de l'OTAN sont réunis aujourd'hui à Bruxelles après le sommet du G7, une première rencontre depuis l'arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden. Après 4 années difficiles face à Donald Trump qui avait qualifié l'Alliance Atlantique d'obsolète, c'est le sommet des retrouvailles transatlantiques pour les alliés qui veulent maintenant revitaliser l'OTAN, un objectif affiché par le président américain afin d'affronter les nouveaux défis posés par la Russie et la Chine. Les précisions de Pierre Benazé.
Les alliés ont avant tout mis sur les rails leur nouveau concept stratégique. L'actuel est vieux de plus de 10 ans. Il date d'une époque où terrorisme international et Afghanistan étaient au centre des préoccupations de l'OTAN. Ce concept stratégique pour 2030 se focalisera sur les nouveaux défis, en particulier les conflits dans le cyberespace, dans l'espace aussi, par exemple pour la détection et la défense antimissiles, ou encore sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre par les armées. Sur les questions budgétaires, comme tous ses prédécesseurs, Joe Biden rappelle aux alliés européens leur engagement, pas encore complètement tenu, de porter leurs dépenses militaires propres à 2% de leur PIB. Même si les États-Unis ne dictent pas totalement l'ordre du jour, Joe Biden a insisté pour décrire la Russie et la Chine comme les deux défis majeurs pour l'Alliance, 2 points de tension pour les alliés, car même si tous sont d'accord pour qualifier la Russie d'adversaire de l'OTAN, la Turquie, en achetant des missiles russes, met les alliés en porte-à-faux. Et la volonté américaine de voir la Chine identifiée comme adversaire par les 30 pays de l'OTAN rencontre un certain scepticisme parmi les alliés, qui acceptent cependant de qualifier les ambitions et le comportement de la Chine comme un défi systémique pour l'OTAN. Pierre Benazé, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
Le président français Emmanuel Macron et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan se sont entretenus en tête-à-tête ce lundi en marge de ce sommet. Après des mois de tensions, ils ont affiché une volonté d'avancer ensemble sur la Syrie et la Libye. C'est ce qu'a indiqué l'Élysée. Israël tourne la page de l'ère Netanyahou au lendemain du vote de confiance par le Parlement au gouvernement du Premier ministre Naftali Bennett. Le nouveau chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, s'est engagé à améliorer le dialogue avec le Parti démocrate américain ainsi qu'avec les pays de l'Union européenne. Il s'exprimait lors d'une cérémonie à Jérusalem marquant son entrée en fonction. En Irak, les autorités ont sorti d'un charnier les restes de 123 victimes de l'un des pires massacres des djihadistes de l'État islamique. Elles entendent ainsi les comparer à des échantillons prélevés sur des proches de disparus. 583 corps ont été retrouvés, principalement de musulmans chiites détenus à partir de 2014 dans la prison de Badouch, dans le nord de l'Irak. 12 peines de mort ont été confirmées par la justice égyptienne pour des frères musulmans. La cour de cassation accuse ses membres de la confrérie d'avoir armé des gangs criminels, résisté à la police et d'avoir été en possession d'armes à feu et de munitions. Les frères musulmans sont considérés comme une organisation terroriste en Égypte depuis 2013, après le mandat d'un an de Mohamed Morsi. Retour dans notre dossier sur la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure au Sahel, annoncée la semaine dernière par Emmanuel Macron. Cette décision ne signe pas pour autant la fin de l'engagement militaire de la France dans la région, initié il y a 8 ans avec l'intervention au Mali. Le président français a évoqué en effet une transformation profonde de cette présence, voire un changement de modèle, en misant par exemple sur une mobilisation plus internationale, notamment européenne, sur le terrain. Barkhane, aujourd'hui, c'est 5100 soldats déployés dans une région désertique de 4 millions de kilomètres carrés, instable, gangrénée par les trafics en tout genre et les attaques de groupes djihadistes. Roland Marchal est chercheur au CNRS, basé à Sciences Po Paris. Il revient sur les raisons conjoncturelles et structurelles de cette décision française, une décision dont l'application sera progressive et étalée dans le temps.
Ce départ de Barkhane va prendre du temps et il va être étalé suffisamment longtemps pour que l'élection présidentielle française ait lieu. Donc, si vous voulez, ça ne sera sans doute pas achevé avant la fin 2022, peut-être même début 2023. Et on peut penser qu'il y aura de nombreuses relectures de ce discours et accommodements avec les affirmations qui ont été prononcées par le président de la République. De plus, ce qui est envisagé par le chef de l'État, même si ça me paraît relativement irréaliste, c'est la montée en puissance d'une force européenne avec un contingent français significatif. Hein, comme toujours, lorsqu'il s'agit de l'Union européenne, les Français occupent très souvent plus de 50% des postes. Et puis une action accrue dans la formation des forces spéciales et des armées au niveau sahélien pour les pays qui le voudraient.
Pourquoi avoir décidé, presque de manière abrupte, de mettre fin à la force Barkhane, même si ce sera étalé dans le temps?
Écoutez, alors il y a plusieurs questions. Depuis quelques semaines, depuis la mort d'Idriss Déby, on est allé de Garib en Silla, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement de pouvoir à N'Djamena, bon, qui a un coup d'État militaire. Puis on a eu le coup dans le coup au Mali. Il y a eu une tentative de coup en Guinée. Ça va pas très bien au Niger. Donc les Français ont eu le sentiment qu'ils allaient s'enfoncer. Ça, c'est un peu la conjoncture. Sur le plus structurel, bon, Macron, si vous voulez, a hérité de l'opération Barkhane. Déjà en 2017, il savait que cette opération, disons, était une contradiction, c'est-à-dire qu'elle allait gagner toutes les batailles et perdre la guerre. Et donc, du coup, si vous voulez, il y a toujours eu une certaine tentation d'Emmanuel Macron de réduire l'importance de cette opération qui est très chère et qui, de plus, ne pourra pas gagner. Je crois qu'une des choses qui l'a profondément irrité, c'est le fait que les Français combattent des mouvements que le gouvernement français qualifie de djihadistes, mais qu'en même temps, au Mali et au Burkina Faso, les opinions publiques, les organisations de la société civile, mais aussi les appareils d'État, ont commencé à faire la différence entre les différents groupes et estiment que certains d'entre eux sont en fait disponibles pour un dialogue politique. Et donc la logique de cette opération, elle est donc de fait remise en cause par les États sahéliens.
C'est une manière donc de placer aussi tous ces gouvernements face à leurs responsabilités pour qu'ils puissent trouver une solution politique à ces conflits.
Ma réponse est plutôt non, enfin ou un oui, mais il y a deux choses quand même qui manquent. La première, c'est on ne tire aucun bilan de l'opération Barkhane. Et l'opération Barkhane en France et en Europe s'est présentée comme une opération qui a tué un certain nombre de responsables djihadistes importants. Mais on oublie de mentionner le reste. Le reste, c'est aussi les dysfonctionnements de Barkhane, les dommages collatéraux. Il y aurait une évaluation à faire de Barkhane qui n'est pas simplement, disons, la perception du gouvernement français.
Interrogé par Xavier Sartre, Roland Marchal, chercheur au CNRS basé à Sciences Po Paris, était l'invité du dossier de Radio Vatican. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre écoute. Prochain rendez-vous demain matin à 8h30. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.